Plan large.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Marc Niehaus, bonjour.
Salut.
Vous nous avez donné rendez-vous au plan sur B. On va parler de montagne aujourd'hui. On ne vous connaît pas. Hein. Vous êtes ce qu'on appelle un aventurier moderne. Vous êtes allé faire une route de très haute montagne dans l'Himalaya. Vous allez nous raconter cette expérience. Pourquoi les plans sur B ?
Les plans sur B parce que cette aventure, elle a commencé ici, dans le Tour du Muvron, en haut à la cabane de Tourche. Et il y a quelques années, déjà 5 ou 6 ans maintenant. Et puis dans cette cabane, la gardienne a un album qu'elle a publié lors de sa propre expérience de la traversée du Great Himalaya Trail, le grand trail de l'Himalaya. Et j'ai découvert l'existence de ce trail-là, à la cabane de la Tourche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, symboliquement, on est réunis ici pour un peu commémorer le début de ce rêve.
L'idée est d'arriver un peu ici, sur les hauteurs de notre Chablais. Ce mot trail, hein, il peut être un peu traître. On pense tout de suite à la course en montagne. Là, c'est pas du tout la démarche chez vous. Hein. Le trail, c'est le sentier, c'est la route, en fait.
Ouais, tout à fait. Donc là, c'est vraiment dans sa traduction littérale.
Pas de compétition.
Non, c'est juste un trail. C'est un chemin qu'on peut aussi dire trek, mais le Great Himalaya Trek, c'est un peu moins sexy, on va dire. Pour ceux qui l'ont créé.
Bon, c'est quoi ce chemin de l'Himalaya ? On sait que dans les Alpes, dans toutes les chaînes de montagnes, la vie a existé bien avant le tourisme, bien avant la performance du XXe siècle. Et puis, les chemins existaient d'un village à l'autre. On traversait l'Himalaya comme on a traversé les Alpes à pied, en prenant son temps ou en faisant du commerce, en faisant toutes sortes de choses. C'est ça, en fait, un trail.
Oui, alors effectivement, dans l'Himalaya, les vallées sont reliées entre elles par un certain nombre de chemins. D'une part pour favoriser les échanges économiques entre une vallée et une autre. Il faut savoir vraiment que dans l'Himalaya, un peu comme dans le Valais, chaque vallée a sa population, un peu sa culture, sa génétique.
Son patois.
Et dans l'Himalaya, ça ne fait pas exception. Ils allaient chercher des femmes de l'autre côté, dans d'autres vallées aussi.
Ils disent aussi, t'as où les yaks ? Non.
Ouais. Et donc ils ont créé par à travers les siècles, en fait, tout un réseau de chemins qui relient les vallées les unes des autres. Et ce qu'on appelle aujourd'hui le Great Himalaya Trail, c'est une intention d'un certain nombre de Sherpas, en fait, au Népal, qui se sont dit montrons au monde que l'Himalaya est relié à travers ce réseau de chemins. Mais il n'est pas seulement relié au Népal, il est relié du Kazakhstan à l'ouest jusqu'à l'extrême est dans l'Himachal Pradesh, je crois que ça s'appelle.
Donc l'Inde du Nord.
L'Inde du Nord-Est, ouais. Et donc c'est un ensemble de chemins qui sont parcourables, parfois qui ont disparu aussi depuis, du Kazakhstan jusqu'à l'extrême est, à travers le Népal entre autres, l'Inde, le Sikkim, à travers aussi le Bhoutan. Et moi, ce que j'ai découvert en fait ici à Tourche, à la cabane de Tourche, c'était le chemin, ce qu'on appelle la basse route du Népal. Mais déjà, j'étais complètement enthousiasmé à cette idée peut-être un jour traverser le Népal à pied sur 1700 km.
Ouais, le Népal, on regarde sur une carte, ça a l'air tout petit, hein, mais c'est parce qu'il y a des géants à côté, la Chine, l'Inde, etc. Ça fait quand même 1700 bornes de montagne, quoi. En fait.
Absolument.
Et simplement au Népal, hein, vous avez parlé d'autres pays,
oui,
mais là on est
Au Népal. Juste la portion népalaise, parce que le tout fait 5400 km, et la portion népalaise, c'est cette petite portion enclavée dans l'Inde. Et moi, ça m'impressionnait déjà parce qu'avant de partir, j'avais une carte dans ma salle de bain et je voyais que sur cette carte du monde, 2,5 cm de cette carte, c'était ce que j'allais marcher. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai marché dans ma vie était totalement insignifiant sur une carte, sur une carte du monde, même pas. Et là, tout d'un coup, j'avais 2 cm ou 2,5 cm de la carte du monde que j'allais traverser à pied.
Complètement fou. Bon, on va revenir un peu sur l'expérience. Hein. Pas d'idée de compétition, ça je l'ai dit, mais une idée de performance personnelle quand même. Il y a un anniversaire, hein, vous avez eu 60 ans, vous avez dit il faut que je fasse un truc, le vieillissement est là, il faut réagir.
Ah, c'était pas
c'est ce que j'ai vu en interview.
Ouais, c'est
quand
vrai,
même, hein.
C'est vrai. Les 60 ans se sont pointés, hein, on va dire. On va dire que j'ai découvert ce trail 4 ans avant mes 60 ans, c'est en 56, si je compte bien.
Ça va.
Et puis.
Le cerveau s'est réoxygéné depuis que vous êtes descendu de l'Himalaya.
Ouais, ouais. Et puis, tu sais, comme tous les rêves, tu les perds un peu de vue. Puis tu dis, ça reste un espèce de brouillard ou une espèce d'intention lointaine. Mais il y avait mes 60 ans et je n'étais pas très heureux, en fait, de les voir venir. Pas parce que je me sens décroître ou comme ça, mais simplement, voilà, le fait de prendre un peu d'âge. Et je me suis dit, ce trail-là, maintenant, j'ai vraiment envie de le vivre, j'ai vraiment envie de le faire. Pourquoi pas utiliser ce passage symbolique pour faire quelque chose de symboliquement aussi différent de tout ce que j'ai fait dans ma vie.
Pour se donner un but aussi, une date, une échéance, hein, parce qu'on ne fait pas un chemin comme celui-là, même s'il est très personnel, comme on va aux champignons. Quoi. Il faut se préparer, évidemment.
Ouais, alors il y a une préparation effectivement physique. Alors moi, j'ai un entraînement régulier dans la semaine qui est juste de maintenir ma tonicité, hein, d'aller marcher un petit peu, de faire un peu de yoga, mais je fais pas du sport à proprement parler. Je vais nager, je vais danser, je fais des choses comme ça, mais à la venue de la concrétisation de ce projet, je me suis dit bon ben il va falloir que j'en fasse un peu plus, mais j'ai pas réussi. J'habite Saint-Sergue au-dessus de Nyon dans le Jura. Et puis j'ai fait comme préparation physique, j'ai fait une montée à la barriette par semaine à peu près, c'est-à-dire 400 mètres de dénivelé par semaine. Et comme l'Himalaya allait imposer aussi de marcher avec des cordes et marcher avec des harnais et des crampons, ce que j'avais jamais fait dans ma vie avant ça, je suis allé voir Jean Troyet et j'ai fait 2 sommets avec lui pour apprendre.
Simplement à mettre
un harnais,
à apprivoiser le matériel,
absolument, ouais. À savoir ce que c'est et pas d'arriver au Népal comme un touriste complet, même si j'étais déjà un touriste en y allant. Mais ce qui était plus difficile en termes de préparation, c'est d'avoir le champ libre pour partir, c'est-à-dire que ma position dans mon entreprise était telle qu'il m'était absolument impossible de partir sans mon bureau, c'est-à-dire mon ordinateur et une connexion internet. Moi, je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas quitter mon travail.
On parle de 3 mois, hein, un peu plus de 3 mois de marche.
En gros, 4 mois de déconnexion Internet. Et donc, un an et demi avant de pouvoir partir, je me suis dit, si je veux partir, il faut que je m'extraie de mon entreprise. Il faut que je sois libre et que l'entreprise continue de fonctionner sans moi pour que j'ai encore une entreprise quand je rentre de cette aventure. Et c'est là que c'était difficile, parce que j'étais au centre de toutes les opérations de mon entreprise. Et donc j'ai engagé du monde, je les ai formés pendant un an et demi. C'est là que j'ai pris du temps de préparation. C'est à me rendre totalement dispensable. Et ça, c'était...
C'est un travail intéressant, ça, hein, parce qu'il y a déjà un travail cérébral à faire. Hein. Je vais me rendre... dispensable, voilà un mot qu'on n'utilise pas souvent et sur lequel on devrait peut-être réfléchir un peu d'ailleurs.
Ouais, ça m'a beaucoup questionné. Alors il y a deux points de départ. D'abord il y a ce rêve, pouvoir le réaliser. Je me suis dit, bon, il y avait cette certitude, il fallait que je m'en extrais. Et l'autre, c'est aussi l'exemple de mon père que j'ai vu comme entrepreneur dans son travail à lui. Pour moi, c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie pour son entreprise, mais dont l'entreprise n'a jamais travaillé pour lui. Et lui, c'était toujours le premier au bureau, le dernier à partir, à toujours avoir l'entreprise dans sa tête, mais je n'ai jamais vu vraiment profiter de son entreprise ou que son entreprise travaille, comme je dis, pour lui. Et donc là, j'avais ces deux challenges devant moi. C'était de me dire, je peux peut-être réaliser ce saut qui est de avoir... Ça fait 14 ans que je travaille dans mon entreprise, avec mon entreprise, que j'ai développé cette activité. D'avoir un retour, pas de bâton, un retour de guirlande ou un retour de laurier quelque part, en me disant,
ce que j'ai fait là peut me servir à m'extraire.
Ouais, l'entreprise va me permettre de faire ce rêve.
Bon, on va mettre ça tout de suite sur la table. Moi, quand j'ai vu votre récit arriver dans ma boîte mail, je me suis dit, voilà quelqu'un qui n'a pas de souci d'argent, qui peut se permettre de partir 3-4 mois. Alors, vous avez une entreprise, vous venez de le dire, mais vous n'êtes pas milliardaire non plus, quoi. Hein. Il fallait la mériter, en somme, cette aventure.
Ouais. Alors, c'est sûr que pour faire cette aventure, elle est pas donnée. Il y en a qui vraiment en portant 35 kilos sur le dos, en étant totalement autonome, en faisant monter des sachets de soupe chinoise et puis en mangeant ça tous les jours, arrive à s'en sortir à peu près 12 000 francs sur les 4 mois à peu près. Mais si on veut le faire confortablement, c'est au minimum le double. Moi, j'ai mis 2 ans à économiser l'argent qui m'a permis de pouvoir partir. Donc, pour dire, je ne suis pas du tout parti d'un statut fortuné à me dire, bah, tiens, comment est-ce que je peux dépenser mes sous. Et donc, d'un côté, il y avait d'économiser, permettre de financer ce voyage. Et puis de l'autre, c'était que mon entreprise continue de tourner sans moi. Et où j'ai beaucoup travaillé dessus. Et je me suis dit, j'ai utilisé ce... J'ai utilisé symboliquement cet anniversaire des 60 ans pour mettre tout le paquet là-dessus, quoi.
C'est intéressant. Je pense que beaucoup de gens se disent un jour, je m'offrirai une aventure, quelque chose. Moi, je fais du bateau, voilà, traverser, faire le tour du monde, l'Atlantique, peut-être même un peu plus modeste. Et puis, l'immense majorité, j'en fais partie, ne le font pas. Vous l'avez senti, ce déclic, vous étiez... Un terreau favorable, on va dire.
C'est-à-dire que ce que j'anticipe, que je sens assez fort, c'est le poids des regrets. Le regret de ce que tu ne fais pas. Oh. Et ça fait quelques années que j'ai développé quelque part une attitude mentale de me dire je veux vivre sans regret, je veux mourir sans regret. Et ce coup de foudre pour le Great Himalaya Trail à la Tourche, ça me coûtait trop cher de ne pas le vivre. Donc ça me coûtait moins cher de faire tous les efforts qu'il fallait pour y arriver. Et c'est ce qui a mis vraiment cette aventure en place, et aussi de mettre la structure qui a permis de le réaliser.
Bon, on va aller, grâce à vous, dans cet Himalaya, on va essayer de décrire un petit peu ce que vous avez vécu dans la deuxième partie de cette émission.